podcast de Radio Vatican.
Les évêques du Honduras sont en visite ad limina au Vatican depuis lundi 4 septembre et pour une semaine. Hier, la délégation, dont fait partie notamment le cardinal Maradiaga, a rencontré le pape François, une rencontre pendant laquelle ils ont évoqué la situation dans le pays. Le Honduras est l'un des pays au monde où le taux de criminalité est le plus élevé, à cause notamment des maras, ces bandes de jeunes extrêmement violentes. Autre problématique, celle de l'environnement. Selon l'ONG Global Witness, le Honduras est le pays le plus dangereux au monde pour les défenseurs de l'environnement. Entre 2002 et 2014, 111 personnes sont mortes. Nous avons rencontré Mgr Guy Charbonneau, prêtre canadien et évêque de Choluteca, Honduras. Il revient sur sa rencontre avec le pape François.
Nous lui avons parlé surtout de la situation du Honduras, situation économique, politique et la violence qui existe au Honduras. Et il nous a écoutés avec beaucoup d'attention. Nous lui avons dit aussi que l'Église du Honduras est l'appuie totalement dans toute sa gestion, dans tout son travail pastoral au sein de l'Église. Et le peuple du Honduras et l'Église du Honduras est avec lui.
Alors, vous nous avez parlé donc de la violence qui existe au Honduras. Il y a ce qu'on appelle les maras, ces gangs de jeunes qui sévissent dans le pays. Quel peut être le travail de l'Église, justement, pour essayer d'empêcher cette violence et d'aider au dialogue?
L'Église travaille à la prévention de la violence avec la pastorale des jeunes, avec aussi l'engagement en communion avec d'autres instances pour le travail sur la famille, surtout pour la question quand nous travaillons la pastorale familiale, et pour que les jeunes, depuis la famille, soient pris en charge par la famille en vue d'une éducation intégrale. Je pense spécialement pour que les jeunes puissent grandir dans un système de valeurs positives, valeurs citoyennes, valeurs humaines, valeurs chrétiennes aussi. Et une des choses que nous avons signalées au pape, c'est que le moment de la préparation, la confirmation, pour nous, c'est un moment important, parce que pour les jeunes aussi qui désirent recevoir ce sacrement, et d'une certaine façon, on leur donne d'autres valeurs ou d'autres façons de s'engager, et non seulement la mara, et les bandes de jeunes qui vont promouvoir la violence.
Ils sont puissants, les maras, dans votre diocèse?
Dans mon diocèse, les moins. Je suis dans un diocèse plutôt rural, à Choluteca. Très peu de maras comme tels. Mais il existe quand même tout un système de où la drogue circule facilement. Quand la drogue circule facilement, il y a le crime organisé qui se met là-dedans. Mais je peux dire que c'est moins pire que dans les grandes villes comme Tegucigalpa ou San Pedro Sula.
Et vous trouvez que la voix de l'Église est assez écoutée, justement, par la population et par ces jeunes?
Oui, je pense que la voix de l'Église est assez écoutée, en général. Les jeunes, peut-être un peu moins, il faut être franc, parce que les jeunes vivent dans un autre monde, et d'une certaine façon, l'Église a un certain contact avec eux, mais il faut travailler beaucoup dans ce sens-là. Il nous manque beaucoup encore pour rejoindre les jeunes dans leur milieu.
Alors, vous êtes dans un diocèse plutôt rural, vous nous avez dit. Est-ce qu'il y a des problèmes liés à l'environnement, à ces questions-là, qui vous mobilisent et dont vous avez parlé au Saint-Père?
Oui, des points dont moi, personnellement, j'ai parlé au Saint-Père avec l'ensemble des évêques, c'est la question de l'atteinte à l'environnement, à la maison commune, la casa commune, et à cause de plusieurs entreprises minières et aussi de l'énergie photovoltaïque, aussi l'énergie éolique, qui ne respecte pas les lois du pays et ne respecte pas les communautés et l'environnement. Et surtout, nous notons que souvent le gouvernement du Honduras va donner des concessions à des compagnies, soit nationales ou étrangères, mais sans consulter avant les communautés qui vivent là. Alors, la réaction des communautés est négative à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas été consultés. Et ce sont des communautés pauvres. Souvent, on ne tient pas compte d'eux, parce qu'on veut faire de l'argent, mais sur leur dos, sans tenir compte de ces communautés-là.
Et donc, vous faites un rôle de médiateur entre le gouvernement et ces communautés?
Oui, ça arrive. Parfois, on m'appelle de la part des communautés, de la part aussi des entreprises, pour essayer d'être un médiateur. Mais je peux dire que je les écoute. Maintenant, surtout, je prends part pour les communautés quand je m'aperçois qu'elles n'ont pas été consultées avant. Parce que les voix des communautés, surtout des communautés pauvres, ne sont pas écoutées facilement. Parce que le gouvernement veut à tout prix faire de l'argent pour le pays. Je comprends, il veut développer le pays. Maintenant, ça ne peut pas se faire sur le dos des communautés. Alors, nous essayons de suivre l'encyclique Laudato Si, spécialement pour protéger les petits, les pauvres de notre diocèse.
Il y a beaucoup aussi de défenseurs de l'environnement qui ont été tués au Honduras. C'est quelque chose qui vous préoccupe aussi, j'imagine?
Oui, évidemment, vous avez entendu parler de Berta Cáceres, qui n'était pas de mon diocèse, mais qui est un cas emblématique de défense de l'environnement de la part des communautés indigènes. Dans mon diocèse, personne n'a été tué comme tel, mais il y a eu des victimes à cause du travail artisanal dans les mines. Il y a des gens qui ont péri à cause de ça. Et disons qu'il y a des gens qui subissent des menaces aussi, des menaces voilées, mais assez claires pour dire de ne pas se mettre dans ces choses-là. Maintenant, les communautés sont unies. Elles sont appuyées par l'Église. Nous ne promouvons d'aucune façon la violence, mais à travers Caritas, nous essayons de mentaliser les communautés sur leurs droits, sur les lois du pays. Il y a des lois positives, que les gens connaissent leurs lois, leurs droits, leurs lois, et qu'ils puissent agir en conséquence et prendre leurs propres décisions.
Donc il y a des lois qui existent, mais est-ce que la justice est impartiale dans le pays ou est-ce qu'il y a des problèmes liés à la justice au Honduras?
Il y a beaucoup de problèmes liés à la justice parce qu'il y a tellement eu de corruption. Il y a tellement de corruption. Le système de justice est corrompu. Il y a énormément d'impunité à cause de ce système de privilèges. Alors, c'est plutôt l'injustice que la justice qui règne. Mais il y a deux classes de justice. Pour les petits, les pauvres, pour les petits voleurs, on les met en prison, on les laisse poireauter durant des années. Mais pour les grands, ils réussissent facilement à s'en sortir. L'avantage qu'il y a eu dans ce gouvernement actuel, c'est que quand même, il a réussi à expulser des gens, à les vers les États-Unis pour surtout des gros, des trafiquants de drogue, et ils sont en prison aux États-Unis parce qu'ils avaient aussi à voir avec la justice des États-Unis. 18 ou 19 personnes qui sont maintenant en prison. Ça, c'est un bon point. Alors, ça fait trembler les autres qui sont peut-être mis dans des questions de trafic de drogue.
Et il y a des élections en novembre prochain, présidentielles, municipales et législatives. Quels sont vos espoirs et vos attentes quant à ces élections?
Il y a une question de réélection actuellement. Le président du pays est candidat pour la réélection. La Constitution ne permet pas la réélection. Alors, l'Église, d'une façon peut-être un peu suave, comme on dit, ou douce, s'est prononcée contre la réélection. Et, actuellement, nous espérons qu'il y ait une campagne électorale la plus propre possible, une campagne de propositions de changement, de propositions de programmes qui favorisent le plus les gens. Parce que souvent, les campagnes électorales ont été des campagnes de salissage, campagnes de méfiance, campagnes dépréciation des personnes et d'une candidat à l'autre. Alors, nous espérons qu'il y ait la campagne la plus propre, je ne sais pas comment dire ça en français, là, possible, et pour que ce soit vraiment les meilleures personnes qui soient élues pour le bien de la population.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.